à Salvant au musée de la radio en présence d'Yves Fournier, le président de la Fondation Marconi. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors Yves, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe ce musée de la radio, de qui est née l'idée de le créer? Si vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet endroit.
Oui, non, c'est une histoire qui remonte sans doute à plusieurs décennies, mais si on veut parler du musée à proprement parler, c'est 1996. La société de développement, emmenée notamment par Dominique Fournier, a pris l'initiative de créer un musée, un espace dans lequel on puisse rendre hommage à l'un des assistants de Marconi. Et comme on était en 1996, c'était justement le centenaire du brevet déposé à Londres, et tout s'est conjugué pour que ce musée puisse ainsi ouvrir.
Il y a actuellement donc une expo avec un espace particulier dévolu au Titanic. Depuis quand est-ce qu'il y a cet espace et puis qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors on a eu la chance il y a 3 ans de recevoir une maquette exceptionnelle, 60 000 pièces, 128 kilos, près de 3 mètres de long. C'est vraiment une pièce qui fait partie des émissions Lego Master et que de nombreux visiteurs d'ailleurs viennent voir ici à Salvant, sur la place de Salvant, juste en face de l'église. Et grâce à la famille Lonfa qui a passé des années et des heures et des heures et des heures encore à constituer ce petit bijou, une reconstitution 90e du Titanic, eh bien l'exposition a pu être augmentée de ce phénomène, ce qui nous permet de mettre en évidence véritablement le lien qu'il y a aussi entre Marconi et le Titanic.
Oui, alors je confirme, nous qui avons vu cette maquette, ça vaut vraiment le détour. Et puis pour être qualifié de musée, il faut avoir une collection. Normalement, vous en avez une, enfin, la Fondation en a une.
Oui, effectivement. Alors ici, notre spécialité, entre guillemets, ce sont des appareils récepteurs, donc des appareils radio. Pour la plupart des années 20, 30 et 40, au-delà de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, on est un peu moins intéressé, on en a un ou d'autres, mais ils sont plutôt là pour le décor. Les appareils vraiment historiques, et notamment ceux qui ont été réalisés par l'entreprise de Marconi, sont au cœur de notre collection, avec un élément aussi très singulier, c'est celui de la reconstitution des appareils de Marconi lorsqu'il était ici en 1895, sur la base des plans qui ont été déposés à Londres l'année suivante.
Ok, puis vous avez aussi une partie collection carte postale.
Oui, alors là, grâce à la famille Coco, qui nous a légué une grande partie de son patrimoine photographique, nous avons plus de 2000 cartes postales de toute la région, de toute la vallée du Trien. Donc on part de Verneuil pour monter à Salvant, les Marécottes, les Granges, le Biolay, le Trétien, et puis après Châtelard, Finhaut, en direction de Chamonix. En fait, c'est la fameuse route des diligences qui se retrouve ici, cartographiée, imaginée parfois par certains graphistes, mais surtout photographiée par de très nombreux intervenants pour faire ces fameuses cartes postales qui ont marqué vraiment l'histoire de cette région.
On fait un flashback de 130 ans à peu près, 1895. C'est comment Salvant en 1895?
Alors c'est une station que l'on dit climatérique, raison pour laquelle...
C'est un terme qui n'est plus utilisé aujourd'hui,
climatérique. Non, mais c'est proche de climatique quand même. Donc on apprécie tout particulièrement le climat de la région. Il faut se resituer ici en pleine révolution industrielle où Anglais et autres gens du plateau européen viennent volontiers dans les Alpes pour l'Alpe Blanche, pour la pureté de l'air, etc. Et sachant que Marconi souffre d'affection pulmonaire, eh bien on le retrouve ici dans une station qui est très en vogue à l'époque. C'est un peu le Zermatt Verbier Cran d'aujourd'hui, à l'image de Champéry aussi, voire de Champé. Donc une belle région qui accueille en 1895 un visiteur comme les autres. Il passe presque inaperçu.
Pourquoi les gens viennent à Salvant? Alors, c'est le place to be.
Oui, c'est vraiment l'une des grandes stations à l'époque. On a peut-être un indice assez intéressant au moment de la séparation de Verneuil et de Salvant en 1912, lorsque les conservateurs décident de matraquer cette commune radicale complètement à cette époque-là, la séparer en deux entre Verneuil, la plaine, et Salvant, et le reste, la montagne. Eh bien, Salvant est la deuxième ou troisième commune contributrice pour l'État du Valais. Ça situe un petit peu la force économique de cette région en 1912.
Donc Marconi fait déjà des essais, il vient de Bologne à la base, hein. Oui, il n'invente pas la radio ici, il a déjà
fait des essais en
Italie.
On ne veut rien voler aux Italiens, puisque dans la région de Pontecchio Marconi, à côté de Bologne, effectivement, il commence ses tout premiers essais, c'est là qu'il réussit ses premiers mètres, première dizaine de mètres peut-être même d'expérience, de transmission sans fil, hein, c'est bien l'objectif, hein, puisqu'on avait déjà le télégraphe avec fil avant, c'est pas vraiment ce qu'on veut ici, c'est bien une transmission sans fil. Et lors de l'été 1895, lorsqu'il revient jusqu'il vient ici en Valais, certainement par la ligne du Simplon, puis la fameuse route des diligences jusqu'à Salvant.
Il n'y a pas de train à l'époque.
Il n'y a pas de train encore, puisqu'il faudra attendre 1906 pour le fameux Martigny-Châtelard, le Mont-Blanc Express d'aujourd'hui. Mais il prend la route des diligences, sans doute avec quelques porteurs, ou à défaut peut-être même un mulet, il n'y en avait pas beaucoup dans la région. Et puis il arrive ici, il dort à l'hôtel très probablement de l'Union avec une dépendance juste en contrebas de la place principale de Salvant, après avoir logé quelque temps d'ailleurs juste à côté de ce qui est aujourd'hui la gare. Et puis c'est là qu'il commence ses premiers essais sur la pierre bergère, derrière l'église de Salvant, un bloc erratique d'à peu près 5 mètres de côté, non, un gros cube là, sur lequel eh bien,
on le voit en photo dans le musée. Hein.
Oui, on l'a un peu partout, quoi. Puis il est à deux pas du musée de toute façon. Il y a aussi un sentier d'ailleurs didactique qui nous conduit jusque là notamment. Ça fait une petite demi-heure de promenade agrémentée de nombreux panneaux explicatifs. Et puis sur ce bloc erratique là, mais il lance ses essais ici, d'abord au pied de la pierre, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on parle mieux à 5-6 mètres sans appareil, mais petit à petit son jeune assistant, le fameux Maurice Gebalma qui a découvert ce drôle de visiteur, ce drôle d'estivant là du côté du Fontanil, l'un des quartiers de Salvant, eh bien accompagne ce futur prix Nobel, d'abord à 5-6 mètres, puis à 10, à 20, à 50, à 100, 200, pour finir dans un autre village, celui des Marécottes, proche de la télécabine aujourd'hui, de la station de départ. Et sur ce kilomètre et demi à peu près, donc le premier mile de la télégraphie sans fil est réalisé ici à Salvant durant l'été 1895.
Il paraît qu'il serait venu aussi ici pour être discret.
Oui, alors ça, c'est une maladie qu'ont à peu près tous les inventeurs. Hein. Mais peut-être que ceux qui inventent ou qui pensent à une invention de l'autre côté de ce fil qui nous relie aujourd'hui à la radio ont le même réflexe. Quand on a une idée géniale comme ça, on essaie de la garder pour soi. Et avant qu'elle ait vraiment abouti, mais on ne dit rien, on se cache. Et puis quand ça marche vraiment, là, on commence à faire un peu de publicité. Et c'est ce réflexe-là qui peut-être l'a amené aussi à Salvant. Au-delà de la station relativement connue, c'est un peu l'antichambre de Chamonix quand même, hein, sur le long de la fameuse route des diligences.
Il a fait un appareil particulier, donc c'est la première radio quelque part. Il n'a pas inventé de A à Z. En fait, il prend des inventions d'autres personnes et c'est lui, en fait, son exploit, c'est de réunir des inventions individuelles pour en faire un ensemble.
Oui, le premier exploit, je pense que c'est d'avoir osé penser que c'était réalisable, qu'on pouvait. Et surtout que la télégraphie sans fil avait un certain avenir. Il faut bien s'imaginer que jusque-là, on ne transmettait des informations que via le fil, hein, que via une ligne téléphonique, une ligne télégraphique.
Chose qui était quand même rare à l'époque aussi.
Déjà, très rare, mais on imagine aussi que Marconi, dont la maman est irlandaise, qui parle donc parfaitement l'anglais, qui est né à Bologne, mais dont le papa avait déjà aussi un bateau, il a en tête déjà les conversations que l'on pourrait avoir avec le monde maritime. Or là, il est assez difficile d'avoir un fil, hein, entre la berge et le bateau lui-même, on l'a assez vite compris. Donc, premier exploit, si on veut bien, c'est d'imaginer d'abord que ceci soit possible. Deuxième exploit, c'est effectivement d'associer des inventions assez extraordinaires. Un éclateur de Righi, un Italien qui a su faire diffuser les ondes dans l'éther, comme on disait à l'époque, dans l'air, hein, et grâce à des antennes, alors les antennes, c'est plutôt Popov, mais Marconi aura l'intelligence de relier ça avec une mise à terre qui rend l'antenne beaucoup plus performante. Et puis, après, il faut encore détecter quelque chose sur le point B, sur le récepteur. Et là, il a en tête aussi des choses qu'il a certainement lues, mais qu'il a aussi améliorées. C'est le détecteur de Branly. Et dans un petit tube de verre, dans lequel il a ajouté son propre mélange de limaille de fer et d'autres métaux, il a quelque chose d'extrêmement sensible aux ondes, et ce qui permet justement de recevoir ce qui a été émis préalablement par l'éclateur de Righi, par cette onde qui a été ainsi jetée dans l'air et qui est récupérée à l'autre bout de la transmission par ce petit tube de verre, élément emprunté entre autres à Branly, le français.
Donc au musée, on peut voir cette machine, cette réplique, une réplique, on est d'accord?
On est d'accord, c'est bien une réplique sur le modèle du brevet déposé en 1896 à Londres.
On sait ce que fait Marconi ensuite?
Alors, il fait beaucoup de choses, hein, parce que c'est un ingénieur assez extra, un inventeur, on va dire. Parce que, ingénieur, c'est usurpé, parce qu'il n'a aucun diplôme. Hein. Il va recevoir de nombreux doctorats honoris causa, mais aucun titre universitaire, rien du tout, ce qui est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'on peut réussir dans la vie sans forcément aller trop loin à l'école. Hein. Et puis, ce qui est assez passionnant ici, c'est de voir que c'est aussi un homme, un businessman extraordinaire qui va déposer des centaines et des centaines de brevets à travers le monde, ce qui va lui valoir et valoir à sa compagnie aussi un succès économique retentissant. Ce qui ne sera pas sans incidence d'ailleurs aux États-Unis, puisqu'il va perdre ce fameux procès contre Tesla. En fait, c'est surtout contre les États-Unis, pour que les États-Unis puissent utiliser longtemps encore tout ce que Marconi avait inventé ou amélioré sans devoir payer des royalties.
Donc en 1895 ici, il fait les premiers essais. En 1912, c'est déjà sur le Titanic, parce que c'est comme ça qu'il est aussi célèbre. C'est relativement court.
C'est très court, mais en même temps... alors ici, c'est le premier mile, après c'est la Manche... après c'est le transatlantique, enfin une liaison transatlantique. Après il y a même quelque chose qui a défrayé la chronique, c'est que depuis, je ne sais plus si c'est Londres ou bien le Canada ou les États-Unis, il réussit à déclencher une lumière en Australie. Donc on envoyait un signal, une onde, hein, on peut très bien déclencher un interrupteur, et il réussit quelque chose là, ça épate tout le monde évidemment, parce qu'on était persuadé d'abord dans un premier temps, et avant Salvan, on était persuadé que le poste B, enfin le point de réception, devait être visible du point d'émission. Et c'était la théorie qui valait jusqu'en 1895-96. Dès le moment où Marconi s'aperçoit que le petit Guebalma est caché derrière une butte qui se trouve vers la télécabine des Maricottes aujourd'hui, et qu'il doit grimper sur cette petite colline pour agiter son drapeau pour dire que ça a passé, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il dit, mais tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant était faux. Donc la pratique va bien au-delà de la théorie de 1895-96, et elle contredisait clairement les théories émanant de grands scientifiques.
Thank you.
moi, je suis très intéressée par les parcours de vie. Et puis, il y a un autre parcours de vie que vous abordez ici dans l'exposition, qui croise peut-être celui de Marconi, mais qui croise surtout celui du Titanic.
Ah oui, là, on a un cuisinier assez extraordinaire, un certain Bochatet, qui est d'abord un petit cuisinier du coin, hein, qui fait son apprentissage ici, aux Granges, sur Salvan, et puis qui va courir le monde ensuite, et notamment à Londres, où il se fait une certaine réputation, au point d'être engagé par la compagnie du Titanic. Et il sera le numéro 2 des cuisines sur ce gigantesque paquebot. Alors évidemment, voilà, il ne fera pas partie des 700 que Marconi a contribué à sauver grâce à ses appareils qui ont émis les SOS et les CQD. Mais c'est assez étonnant de voir que Marconi a passé ici en 1895. Il a inventé des appareils qui ont sauvé des gens à travers le monde, mais notamment sur le Titanic. Et puis que ce jeune cuisinier, qui à l'époque avait une place extraordinaire, imaginez qu'il envoyait à sa famille 40 000 francs suisses de nos jours chaque année. C'est le rêve de tous les parents, d'avoir des enfants aussi sympathiques.
Mais c'est assez incroyable, ce montant.
Ouais, un montant extraordinaire, mais surtout de voir que ces deux destins-là se sont croisés sans doute, sans même s'apercevoir.
Sans se connaître, hein. Salvant.
Et puis que finalement, ils se retrouvent très indirectement. C'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais enfin, voilà, on a un cuisinier qui aurait pu rencontrer Marconi ici à Salvan et qui finira par les fonds marins.
Bon, on a l'épisode du Titanic, l'épisode de la télégraphie, c'est ça ? C'est juste ?
Télégraphie sans fil, oui.
Sans fil, ouais. Il y a l'épisode de la radio, où on a aussi beaucoup dans le musée de postes de radio. Marconi contribue fondamentalement au développement de la radio.
Oui, alors là, c'est quelque chose. On a tenu dans cette exposition à faire une sorte de ligne du temps, en partant du poste à galène jusqu'au transistor, montrant aussi quels étaient les progrès techniques qui ont été réalisés par beaucoup d'inventeurs. Mais Marconi, avec ses centaines de brevets, a largement contribué, d'une part, à l'amélioration, la qualité de réception et d'émission, et d'autre part aussi à la qualité, même extérieure, des appareils. On en a quelques-uns ici qui sont d'un design qui est proche de celui du futurisme italien des années 30 et 40. C'est quelque chose qui a véritablement marqué les esprits aussi. Le transistor devient un élément peut-être de luxe dans un premier temps, et puis après il se démocratise petit à petit. Mais des maisons comme Philips, Loewe, Telefunken, bien sûr, pour l'Allemagne, avec une petite parenthèse ici d'ailleurs dans le musée, si j'ose, il y a un appareil sur lequel on retrouve alors une croix gammée. C'est un Kleinempfänger, c'est un petit appareil qui était distribué très généreusement par l'Allemagne nazie dans les familles, à un prix particulièrement bas, de façon à ce que Goebbels, Hitler et d'autres puissent intoxiquer leur population, les embrigader comme on le sait malheureusement bien trop aujourd'hui. Et cet appareil a quelque chose de particulier, c'est que cette petite croix gammée, contrairement aux 99% de ces appareils, n'a pas été gommée, écrasée au lendemain de la guerre. Donc cet appareil est intact, c'est vraiment l'un de ceux qui ont été distribués durant ces années de guerre.
Qui sont les visiteurs types de ce musée ?
Alors c'est un musée qui est ouvert non-stop 15 juillet, 15 août, 14h-18h. Ça, c'est vraiment tous les jours pour les estivants essentiellement. Hein. Donc on a des touristes de la région qui passent par là. Les radios amateurs, alors avec notamment leur président Marc Torti, qui est un président très dynamique de ces radios amateurs pour le Valais. Et puis on a toute une autre frange alors, de visiteurs, c'est ceux qui viennent ici pour des visites commentées. On en a régulièrement pour des groupes de 10, 15, 20. On essaye de ne pas dépasser un groupe de 20, 25. Quand on a des groupes plus nombreux, on divise en deux, puis on envoie un premier groupe faire le tour de la Pierre Bergère, enfin sur le sentier Marconi, sentier didactique. Et puis ensuite, on inverse les deux groupes. Donc là, on a beaucoup de monde qui vient effectivement. Alors, ça peut être prosénèque tout est. C'est une clientèle, c'est possible. Après, c'est une classe, la classe, je ne sais pas, 48 de Montais, ça peut être
des entreprises.
La PPE, des entreprises, alors plutôt des entreprises techniques. Hein.
Swisscom.
Alors Swisscom est venu, etc. La RTS. L'école polytechnique de Lausanne, alors vient régulièrement, notamment avec le LEMA, le laboratoire d'électromagnétique et d'acoustique. Là, on a aussi quelques membres du corps professoral chez nous dans le conseil de fondation.
Et combien de temps il faut compter si une équipe veut faire les deux, le sentier didactique plus la visite?
Alors si on est, je sais pas, au-delà de 20, disons, si on veut faire les deux, on peut diminuer la visite jusqu'à 30 minutes. Généralement, elle dure plutôt 45 minutes. Ça dépend un petit peu du temps. On a des gens aussi qui prennent le train, enfin des groupes qui prennent le train depuis Martigny jusqu'à Salmon. Comme la gare est à 2 minutes à pied, ils viennent jusqu'ici. Ils peuvent visiter, écouter, suivre attentivement le guide, et puis repartir et prendre le train suivant, par exemple. Hein.
Ou aller au zoo.
Ou aller au zoo des Marécottes, bien évidemment, ça c'est aussi... C'est un public un petit peu plus jeune, souvent, mais alors, étonnamment, avec le Titanic, ici, en Lego, 60 000 pièces, les enfants adorent ça. Alors, on a les grands-parents qui viennent plusieurs fois avec leurs petits, parce qu'évidemment, le Titanic est 5 fois plus lourd que ces petits gamins, beaucoup plus grands aussi, et ils sont tout émerveillés de voir ce colosse Lego.
Je suis sûr qu'il n'y a pas que les enfants qui sont émerveillés.
Peut-être même les...
Toute génération.
Les grands-parents adorent, en tout cas.
Toutes ces informations qu'on a dites là, on les trouve sur un site internet?
Oui, alors la Fondation a son site, fondation-marconi.ch, où on retrouve tous ces éléments-là, avec notamment l'histoire du cuisinier du Titanic, avec quelques éléments aussi sur l'histoire de Marconi, sur ses différentes expériences à Salvan, sur la suite aussi de cette aventure assez extraordinaire qui l'a amené à travers le monde comme l'un des pères de la radio.
Pour une visite guidée?
Pour une visite guidée, alors il y a aussi un numéro de téléphone au 079 347 12 50. Et après, on essaye de se coordonner pour trouver une date et une heure qui correspondent à tout le monde. Et voilà, après, il faudra évidemment payer le guide. Ça peut le donner ici, c'est 60 francs pour le guide. Et puis, il y a une entrée, 3 francs pour les AVS, mais 5 francs pour les autres. Voilà.
Bon, je pense que le guide...
Comme ça, vous savez tout.
Le guide peut être très intéressant parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à expliquer.
Effectivement, ce qui explique aussi que ça peut prendre 3 quarts d'heure ou plus, suivant l'intérêt du groupe pour le Titanic, pour Marconi, pour la radio, pour la télégraphie sans fil, pour la région, pour les cartes postales. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal d'entrées.
Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges.
Tout à fait.
Voilà.
Parfait, merci beaucoup Yves.
Merci à vous d'être venu jusqu'à Salvan et puis
un bon été.
On souhaite un bon été à tous les Agonois et à tous les autres qui nous écoutent. Merci.
Merci, à bientôt.
Merci.
Dans la main.